Scarlatti au fil des jours. Les 555 sonates d'un grand maître du clavecin par Philippe Frétigny.
Aujourd'hui, nous allons entendre la sonate numéro 73, qui est de forme exceptionnelle, en ce sens que c'est une sonate relativement longue en trois parties. Une première partie allegro, une deuxième partie menuetto, une troisième partie menuetto. Toutes de forme symétrique et avec une forme de symétrie dans les tonalités, puisque nous avons do mineur pour la première partie, do majeur pour la partie centrale et do mineur pour la troisième partie. Nous trouvons à peu près une dizaine de menuets dans l'œuvre de Scarlatti. C'est en tout cas le titre que les copies manuscrites donnent à ces sonates. Ce n'est pas tellement la forme même de ces pièces plutôt que leur esprit qui appelle cette nomination. La plupart de ces pièces sont de caractère asymétrique et inégal. Dans ce menuet, nous avons des parties de forme symétrique. Et c'est surtout l'unité du thème et la mesure ternaire, ainsi que le caractère dansant de ces pièces, qui leur font donner le titre de menuet. Je poursuis l'itinérance que nous avons commencée la semaine dernière. Après avoir passé le printemps à Aranjuez, la cour passait l'été au palais d'été de Sant'Il d'Enfonso à la Granja. Philippe V y avait fait réaliser un jardin à la française. Je précise pour nos auditeurs qui l'auraient oublié que Philippe V est le petit-fils de Louis XIV, le fameux duc d'Anjou. Donc Philippe V lui avait fait réaliser un jardin à la française, bien que le terrain accidenté ne ressemblait en rien à son île de France natale. Au milieu de la géométrie du jardin à la française, des figures allégoriques et des statues de dieux créent un décor architectural fantastique. C'est donc à la Granja que Domenico passait tous les étés, de juillet à octobre, pendant les dernières années du règne de Philippe V. Domenico, bien qu'habitant Madrid, suivait la cour dans ses différents déplacements. Ensuite, à l'automne, la cour se rendait à l'Escurial, jusqu'à la mi-décembre, ce grand palais glacial, négation de la nature, qui est plus de l'ordre de la retraite monacale que de la résidence royale, comprenant une basilique, un mausolée royal, un palais, une bibliothèque, un monastère avec l'ordre hiéronymite. Ce palais glacial, voulu par Philippe II, était un véritable repoussoir. Les ambassadeurs qui venaient rendre visite au roi devaient abandonner au vestiaire tous leurs ornements vestimentaires, revêtir une cape noire et un long col qui les obligeait à maintenir la tête levée. Ce palais était ce qu'on appelle « el tempo y Dios », « Dieu et le temps ». C'est dans ce palais que se trouve le tombeau de tous les Habsbourg d'Espagne, avec, dans une sorte de crypte, avec une pièce préliminaire d'une morbidité typiquement espagnole qui s'appelle le pourrissoir, où on laisse pendant un an le corps du roi se décomposer avant de le descendre dans son tombeau. Enfin, la cour terminait l'année à Madrid au palais du Buen Retiro. Le calendrier se composait donc de la façon suivante. De janvier à la mi-mars, dans la demeure du Pardo à Madrid, à Pâques au Buen Retiro à Madrid, d'avril à juin à Aranjuez, de fin juin Buen Retiro, juillet-octobre la Granja, octobre-début-décembre l'Escurial et Noël au Buen Retiro. Je précise que la cour espagnole n'était pas la seule cour itinérante, puisque jusqu'à la fixation de la cour en 1682 à Versailles, la cour était elle-même itinérante pour une grande partie à l'intérieur de l'île de France, entre les palais de Fontainebleau, de Saint-Germain. En Espagne, il y avait une tradition encore supplémentaire, c'était celle de Charles Quint, qui n'a cessé de voyager en gros à travers l'Europe, en tout cas de l'Espagne aux Pays-Bas, qui étaient les Pays-Bas espagnols à l'époque. Mais l'itinérance du temps de Scarlatti se limite à quelques palais autour de Madrid.